France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Quelques mois après avoir sorti un nouveau volume de son intégrale des suites pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach chez Alpha Classics, Sonia Vidar-Atherton prend un nouveau chemin de traverse, de biais, d'un carnet de là-bas, avec le réalisateur et vidéaste Clément Cogitor. La violoncelliste présente un spectacle autour de son ancienne professeure russe, Natalia Chakovskaya. Ce sera le 16 avril à la Philharmonie de Paris, après une création, là, il y a quelques jours, à Mulhouse. Bonjour Sonia Vidar-Atherton.
Bonjour.
Ça s'est bien passé, la création ?
Ça s'est passé de manière intense, étalé sur plusieurs moments. Puis là, on avait encore une dernière... 2 jours et puis les 3 premières représentations. Puis on va encore à Arras avant d'arriver à la Philharmonie.
C'est un soulagement, c'est où il y a une tristesse une fois que c'est créé?
C'est une bonne question. Il y a plein d'étapes différentes. Ce qui est sûr, c'est que comme je suis sur scène et dans les images et dans les choses, forcément, je ne le vois pas. Donc il y a un moment donné où tout d'un coup c'est comme si je déposais mes yeux, mon cœur à Clément, à mes deux proches qui travaillent avec nous, Héloïse et Quentin, et je leur dis bah maintenant c'est vos yeux, vos sensations, vos émotions qui vont me raconter. Et c'est vrai que le processus du travail, de chercher, de recommencer, d'être dans la salle, d'aller de l'un à l'autre, c'est quelque chose qui est assez palpitant. Et questionnant, et puis voilà, ça fait partie du moment où, je sais pas si je dirais tristesse, mais c'est, on passe à un autre moment, ouais.
Bach, d'abord, ce deuxième volume sorti il y a quelques mois, troisième et quatrième suite, pour moi, écrivez-vous, dans le livret, jouer les suites de Bach, c'est toujours à revoir l'image des mains de Giacometti qui modèle la terre inlassablement jusqu'à ce qu'apparaisse un visage. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Qu'est-ce que je veux? C'est lui qui le dit d'une manière tellement extraordinaire, mais l'essence de ce qui m'attire dans ce qu'il dit là, c'est le faire et à la fois inventer en faisant. Donc, l'existence de la chose que vous essayez de faire apparaître et en même temps tout le temps qui peut vous échapper. Et aussi, le rapport au mouvement, parce que si cette recherche s'arrête, c'est ce qu'il exprime, tout s'arrête. Et qu'en fait, si on trouve, alors tout, c'est plus la peine. Et il y a un rapport au temps que lui dit tellement, je trouve génialement dans cette explication, c'est qu'on est dans ce temps-là, mais on ne s'assied pas dedans dans une certitude qui va durer toujours, ni que ce temps-là va nous apporter. Il y a cette espèce de chose, et que je ressens, c'est vrai, quand je joue Bach, si on ne trouve pas ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne saurais pas dire pourquoi c'est tellement fort dans Bach. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette pulsation et ce rapport à ce qui se passe qui se défait et se fait en même temps.
Suivant l'instant, suivant son âge, par exemple.
C'est une histoire de moment, c'est pas...
Mais ça veut dire que vous pouvez jouer ces suites, ces différentes danses, à des tempos très différents?
Non, c'est plus... oui, bien sûr, ça peut se faire, mais c'est plus un état, comme par exemple un enfant qui, tout d'un coup, va vous chanter 4 phrases d'une chanson, ou va faire un mouvement du corps qui va être une sorte de chose tombée comme ça, d'une perfection. Et en même temps, on sent que c'est un fruit du hasard. Et en même temps, ça se pose là comme quelque chose d'extrêmement évident. Et c'est plutôt ça, c'est plutôt des moments qu'on essaye de créer avec, évidemment, une lecture du texte, un choix des tempi. C'est pas, oh tiens, aujourd'hui, je vais essayer 2 fois plus vite. C'est vraiment comment on est avec... la musique, comment son corps vibre avec, et comment tout se met à fonctionner ensemble. Et un autre exemple qui vient en essayant de nous expliquer, parce que je me rends bien compte que c'est pas très concret ce que je dis comme souvent, mais c'est comme la cérémonie du thé. Quand il y a cette explication que on ne sait plus faire la différence entre la tasse de thé, la main, le cœur qui bat, tout devient un. C'est peut-être lié à ça aussi, ce que j'essaye de décrire.
À l'heure du thé, du premier thé, peut-être, Jean-Sébastien Bach. La gigue finale de la quatrième suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach. Sonia Vidar-Atherton, notre invitée ce matin, deuxième volume de cette intégrale. C'est sorti il y a quelques semaines chez Alpha Classics. Enfin, je dis intégrale, on l'imagine. Il y a eu un premier volume, les deux premières suites, il y a 2 ans. C'est troisième et quatrième suite. Vous prenez le temps quand tant de vos collègues sortent tout d'un coup. Pourquoi?
Je crois que c'est une histoire de vie et de moments, d'occasion, comme c'est quelque chose que je fais, que j'ai commencé, comme je raconte, je m'attendais pas à commencer à ce moment-là, j'ai fait presque un essai, je me suis dit on va essayer dans la nuit, parce que j'étais très proche de l'équipe de Noir Lac, je suis toujours d'ailleurs. Et puis, Paul Fournier, qui était là à l'époque, m'a dit, mais la nuit, prends les clés, fais ce que, comment? Voilà, vas-y, quoi. Et donc, avec Pierre-Antoine Signoret, avec lequel je travaille depuis très longtemps, parce que j'ai aussi des longues collaborations avec des gens. Et donc, on a commencé et je me suis dit, on verra bien. Et puis, en fait, c'est devenu le premier volume. Et puis ensuite, le temps de se dire comment on va faire le deuxième. Est-ce qu'on le fait au même endroit? Quand est-ce que tu pourrais? Quand est-ce que... Voilà, ça s'est trouvé comme ça.
La suite est faite.
Alors du coup, j'ai redécouvert l'église Saint-Pierre aux Nonains à Metz, et puis je me suis dit tiens, peut-être que les deux dernières, parce que je me suis toujours dit que peut-être ce serait beau de pas tout faire au même endroit, mais je me suis dit la vie qui a des fois plus d'imagination que nous. viendra mettre son petit grain de sel, c'est ce qu'elle a fait. Et du coup, je me suis trouvée là et je me suis dit, tiens, ce serait beau les deux dernières de les faire dans un lieu différent. Peut-être plus petit, plus comme si le face-à-face avec la personne qui écoute était rapproché pour ces deux suites assez gigantesques quand même et plus dramatiques.
Donc c'était pas forcément une intégrale dès le départ dans votre esprit.
Non.
Pourquoi si tard?
Bah, c'est relatif le si tard. C'est bah déjà le temps que moi je sente que j'ai
vous enregistrez des disques depuis 40 ans.
Oui, mais j'aurais pu le faire encore plus tard. c'est lié à votre première question. Je pense que le temps que je trouve cette chose et que je sente que ce que j'ai ressens maintenant quand je les joue. Enfin là, maintenant depuis quelques années. Avant, je me disais non, c'est pas encore le moment. Puis j'ai attendu de le sentir vraiment moi. De me dire, là, je peux vraiment... Parce qu'un enregistrement, il y a quelque chose, pas d'un arrêt, mais un petit peu quand même. Comme quand vous voyagez, puis d'un coup, il y a quelque chose qui vous semble beau et vous dites, j'arrête. Soit la voiture, soit les jambes, si vous marchez, vous dites, là, je veux m'arrêter. Et regardez, il y a vraiment un arrêt de quelque chose. Un enregistrement, il y a de ça, même si on sait que ça va repartir tout de suite après et que tout va se remettre en mouvement, les recherches, si c'était maintenant, je le referais autrement. Mais il y a quand même ce moment... Et avant que je le ressente, en moi, vraiment, je ne voulais pas. Et je l'ai ressenti il y a quelques années. Et c'est qu'à ce moment-là, je m'y suis mise, comme je vous l'ai raconté.
On joue différemment, Bach, le matin et la nuit?
On ne joue jamais pareil, rien en fait. Une gamme, un premier son. Peut-être que c'est les trois premiers sons qu'on fait quand on sort son violoncelle le matin ou le soir, qui se ressemblent un petit peu comme une sorte de presque de tic, de, je ne sais pas, comme on s'étire en se levant. Mais c'est tout, après
ça... Le premier son de la voix.
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle disait, Natalia Tchaïkovskaïa, au sujet de ses suites de Bach, votre professeur?
On les travaillait comme... Il n'y avait pas de... C'était pas entouré d'une chose très... disons, de les mettre à un autre endroit que le répertoire. Ah, quand on joue Bach, il faut ci ou ça. C'était un travail, bien sûr, en profondeur, comme toutes les autres œuvres qu'on travaillait.
Qu'y a-t-il d'elle quand vous jouez Bach?
Elle est un peu toujours là, même si elle s'est transformée avec tout ce que... Enfin, c'est, disons que ce qu'elle m'apporte, elle m'a apporté et qu'elle continue à m'apporter, parce que les choses ne s'arrêtent pas, encore une fois. Je dirais aussi, qu'est-ce qu'il y a de Bach? Non, je ne peux pas dire dans Bach particulièrement. C'est plutôt tout ce qui continue à vibrer d'elle dans ma vie musicale.
Avant Bach, il y a Monteverdi que vous jouez ici toutes les deux, Sonia Vidar-Atherton et Natalia Tchaïkovskaïa.
Thank you.
au commencement, Monteverdi, c'était le titre de ce disque paru au début des années 2000, Sonia Vider-Atherton, avec votre professeur Natalia Chakovskaya, dans ce Oime Dove Il Moiben de Monteverdi. Quelle émotion vous ressentiez à jouer avec elle?
Ben, c'était effectivement émouvant, parce que je crois que je l'ai amenée dans une aventure qui était très différente de tout ce qu'elle faisait, et qui était donc une des transcriptions de choses vocales. J'enregistrais la basse en re-recording, mais le fait qu'elle accepte, ça a été absolument merveilleux.
Elle acceptait facilement.
Doucement, mais je pense que la musique l'a tout de suite attirée. Et puis on a commencé à travailler. J'avais été la voir à Moscou. On a commencé à travailler. J'ai senti que ça allait aller de manière grandissante dans sa passion pour le projet, quoi. Et puis ensuite on a été en Suisse enregistrer et tout ça. Incroyable de penser que tout ça a pu se faire. Aujourd'hui, il y a tellement de choses de tout ça qui sont plus possibles.
Un extrait de ce disque d'ailleurs est dans le spectacle.
À la toute fin, oui.
C'est en France que vous l'avez rencontrée, Natalia Chakovskaya. Comment elle s'est faite, cette rencontre?
Elle s'est faite parce que j'avais vu l'annonce d'un stage d'été des professeurs du Conservatoire Tchaïkovski. J'étais au Conservatoire de Paris. Et puis comme je commençais à m'intéresser à cette manière de faire le son qui était différente, je voulais essayer de comprendre, m'approcher. Puis quand j'ai vu ça, je me suis inscrite et là, je l'ai rencontrée. Là, elle est arrivée du fond du couloir pour le premier cours que j'avais.
Vous avez su que c'était elle?
Oui.
Qu'elle a changé...
C'est des sortes d'intuitions qu'on a, que parfois, souvent, je crois d'ailleurs, on oublie, parce que je crois qu'on en a tous des moments comme ça, où tout d'un, on sait que ce moment-là, cette personne qu'on voit ou... Peut-être ça peut être aussi un paysage, mais quelque chose vous dit « Ah, ça va être important dans ma vie ». Puis on l'oublie, heureusement, parce qu'il ne faut pas... Et puis après, la vie ne fait que confirmer cette intuition. Ça a été ça.
Après les stages, pourquoi c'était indispensable pour vous de partir là-bas,
parce que
Moscou?
Je voulais travailler avec elle. Je voulais vraiment rentrer dans cet apprentissage, parce que je sentais bien que c'était vraiment tout un voyage. Et... est-ce que je le savais à l'époque ou pas? Encore une fois, je pourrais pas dire, mais probablement quelque chose je sentais, c'est le fait d'être auprès d'elle dans ce pays-là et de découvrir la personne, parce qu'il n'y avait pas que le violoncelle, il y a la personne qu'elle était, son intégrité, son courage, sa résistance non dite, qui n'était pas ouvertement politique, ouais, mais avec une mère... très probablement assassinée, une orpheline, qui avait et sa manière de se placer, enfin de faire ses choix dans la vie.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris?
D'observer ça, arriver à 19 ans dans un pays où des mots répétés à la mauvaise personne peuvent envoyer des gens en prison, ça vous apprend beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que la confiance? Qu'est-ce que c'est que la force du silence? Qu'est-ce que la musique porte comme force quand les mots sont scellés? Vous imaginez tout ça, c'est que vous apprenez en même temps que le violoncelle. Et aussi, ça apprend quand on pense aujourd'hui à ce qui se passe et qu'est-ce que c'est qu'un peuple qui est pris dans un vent de folie, de totalitarisme, de violence, de monstruosité. Comment peut-être, quelles peuvent être les questions des gens qui vivent ça au quotidien? C'est pas rien. Parce que si on n'y réfléchit pas, si on l'a pas soi-même dans son corps expérimenté, même pas directement, parce que j'étais jamais une citoyenne russe, donc je vivais pas les risques que les autres prenaient à côté de moi, mais ça vous fait voir la vie et les choix politiques dans le sens large autrement.
Sonia Vider-Atherton, Carnet de là-bas avec Clément Cogitor. Ce sera dans quelques jours à Arras, 11 et 12 avril, et puis ensuite à la Philharmonie. Est-ce qu'on peut plonger dans ce carnet? Est-ce que vous pourriez nous lire?
Je vais vous lire
quelques lignes de ce carnet.
Alors, justement, je décris un cours. Elle est en face de moi et je joue. Je dois réussir à faire abstraction de sa présence si proche, de son intensité d'écoute. je sais qu'elle va me laisser le temps. Elle est comme tapie dans l'herbe, elle guette. De ses mots précis, aiguisés, sans concession, elle explique. La musique reprend, elle stoppe à nouveau, sa voix est plus forte. Ses bras suivent les courbes de la phrase qu'elle cherche à façonner bientôt de tout son corps. Puis elle lâche et me laisse continuer. Elle chante, elle tient la phrase suspendue à son énergie, à ses palpitations. Elle est comme une équilibriste. Elle façonne, elle sculpte, elle veut multiplier mes sensations, les couleurs de vibrato. Elle travaille la répartition d'archets pour que la course devienne une prolongation du bras. Elle parle des silences, comment on habite le silence.
Quelques mesures de ce concerto rhapsody d'Aram Khatchatourian, joué par Natalia Chakovskaya, l'orchestre symphonique de l'État russe, dirigé par le compositeur lui-même. Alors, Sonia Vidara-Tartan, nous avez lu quelques lignes de ce carnet de Moscou, devenu carnet de là-bas, devenu un spectacle avec Clément Cogitor. Pourquoi en faire un spectacle?
Alors, ça aussi, c'est une sorte de multiplication de moments qui ont fait naître ça. C'est aussi ma rencontre avec Clément Cogitor. On a très vite découvert qu'on avait tous les deux un lien avec la Russie. L'envie de travailler ensemble est née. Et puis, très vite, on a parlé de ces carnets que j'avais commencer à travailler, qui était toujours là un peu, mais en friche. Et puis, Clément a eu envie de faire des images, parce que c'est, je pense, avant tout sa langue. Et puis, c'était avant la guerre, c'est début de conversation entre nous. On s'est même dit que peut-être il irait à Moscou, peut-être même ensemble, pour faire une sorte de... Ce qui est très vite venu, c'est qu'il ferait des carnets en images qui seraient parallèles au carnet que je raconte là. C'est-à-dire que le lien serait presque comme deux histoires parallèles de ce que chacun peut imaginer être les carnets de Moscou. Lui, inspiré par ce que je raconte, et enfin, comme ça, dans un aller-retour constant entre nos deux univers. La guerre a éclaté, évidemment, aller à Moscou, c'était plus possible. Et Clément a commencé un travail assez extraordinaire sur des images d'archives de ces années-là. Et donc, il a pris comme bande-son mes enregistrements de ces textes et il a inventé une histoire avec des images d'archives. Donc, ce qui est, je trouve, d'abord, c'est d'une très grande poésie. Il y a une rythmique qui suit le récit. Et ce que je trouve incroyable, c'est que on peut-être pendant les cinq premières minutes, les gens se disent, tiens, est-ce que la personne dont parle Sonia, c'est ce qui on voit à l'image, et puis très vite on oublie ça, et il y a ces deux histoires, ces visages, ces moments, c'est des archives souvent familiales, c'est pas du tout des choses officielles de réalisateurs connus ou même du gouvernement russe. C'est des choses beaucoup plus privées. Et il y a des choses absolument extraordinaires. Et du coup, on rentre dans ces histoires et on ne veut plus savoir c'est qui, quel est le rapport. C'est les deux récits partent comme ça et ouvrent l'imaginaire.
Carnet de là-bas, 16 avril, la salle des concerts de la Philharmonie de Paris. Et puis cette semaine, 11 et 12 avril, à Arras.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Sonia Vidara-Tartan est notre invitée, un disque Bach, le deuxième volume de l'intégrale, et puis ce spectacle, Carnet de là-bas avec Clément Cogitor. Il est temps pour se quitter d'écouter quelques musiques, musiques que vous avez choisies pour nous, il y en a aussi qu'on a choisies pour vos premières musiques. Thank you. vous avez choisi pour nous Bartok, le cinquième quatuor, premier mouvement, le quatuor Weg, juste en quelques mots.
Mais parce que je parce que j'aime l'écouter, parce que je trouve qu'il y a une énergie vitale, puis que j'aime le son de ce quatuor et j'aime.
Vous aimez ça aussi.
She does not know her beauty. She thinks her brown glory. She thinks her brown body has no glory.
Une prière?
Presque, oui.
Nina Simone. Meaties. A cappella.
Ouais. Et puis, vous savez, vous m'avez demandé un morceau classique, un morceau pas classique. Et bien là, dans ces deux choix, on pourrait changer. On pourrait dire que Bartok est pas classique et Nina Simone est classique. Et inversement, c'est ça que j'aime. Elle est comme dans une improvisation, une prière. Et puis, dans un chant presque grégorien, comme ça. Et puis le Bartok.
Moi, j'ai choisi ça aussi. Sarabande de la deuxième suite de Bach. Si, si, c'est vous, Sonia Bidder-Atherton. C'était le 1er juillet 2018 aux Invalides. Simone Veil.
Au Panthéon.
Au Panthéon.
C'est incroyable avec ce son. Je ne l'avais jamais entendu comme ça. Ça me... C'est magnifique d'entendre que, comme ça, que le son, c'est... Ça crée une autre partition.
Allez, ben,
merci pour cette découverte.
On parlait de tard, nuit, matin. On va se quitter avec Night and Day.
Henry.
Un divan à New York de Chantal Akerman, vous avec Bruno Fontaine,
oui.
Ici, pour se quitter. J'avais une dernière question alors qu'on est en retard. En un mot, pourquoi vous enseignez pas?
Ah mais j'enseigne quand même. J'ai pas de poste fixe pour l'instant, mais comme les suites de Bach, vous voyez, des fois je viens aux choses un peu tard, mais j'y viens.
Les chemins de traverse de Sonia Bidder-Atherton, carnet de là-bas, 11 et 12 avril à Arras, 16 avril à la Philharmonie de Paris. Notre voix mystère, il y a une heure, c'est une voix que vous allez reconnaître, Sonia Bidder-Atherton, je pense.
Je sens qu'en tant qu'actrice, maintenant, j'ai envie de me rapprocher de moi en tant que femme. Je voudrais faire des films faits par des femmes, presque collectivement.
Ah, c'est Delphine Seyrig.
Et voilà.
Eh ben, vous m'avez fait des cadeaux ce matin.
Bonjour Émilie, bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste. On va écouter ce matin Petrouchka par Klaus Makela. C'est la musique de Stravinsky avec l'Orchestre de Paris.
À tout de suite.
À réécouter sur francemusique.fr.